Hier, nous avons vu que la liturgie actualisait pour nous le mystère du salut tout au long de l'année. Vous vous souvenez, on a parlé du temps, on a parlé de la vision chrétienne du temps, en différenciant le temps vécu dans le monde comme une boucle qui retourne sans fin sur elle-même, ou le temps vécu dans une dimension chrétienne de la parousie, vu comme une flèche directionnelle qui nous conduit tout droit au ciel. Donc ça, c'était pour les petits rappels essentiels. En se souvenant, donc on a insisté sur la présentation hier du jour du Seigneur, de la différente manière dont il a été vu dans les liturgies et dont il a été introduit dans l'Église, et de la place centrale et fondamentale de ce jour du Seigneur dans la liturgie, puisque en fait le temps fort de la liturgie chrétienne, c'est le temps pascal, et ce temps pascal est décliné tout au long de l'année, y compris chaque jour, au travers de la liturgie des heures. Excusez-moi. Donc, l'enseignement qu'on va voir aujourd'hui se veut un peu plus concret et pratique. Alors, la liturgie, elle ne s'adresse pas uniquement et surtout pas à notre intelligence, elle s'adresse à notre intelligence, mais elle s'adresse aussi à l'ensemble de notre être. C'est pour ça d'ailleurs qu'on insiste et on vous encourage à utiliser aussi votre corps. Votre corps, votre cœur, vos sentiments, tout participe à la liturgie, tout ce que vous êtes est voulu par Dieu. Donc pour ce faire, cette liturgie sollicite l'ensemble de nos sens. Elle touche aussi bien notre affectivité, notre sensibilité, mais notre intelligence. Quand nous assistons à la liturgie, nous n'y assistons pas d'une manière neutre, mais on va vraiment essayer d'y faire participer tout notre être, dans toutes ses dimensions, parce que le Seigneur, à travers cette participation, veut nous transformer. Et le but de la liturgie, le but de cette transformation, c'est petit à petit de nous amener en conformité avec la volonté de Dieu. Parce que l'Église est notre mère, la liturgie est comme une matrice qui nous a permis de naître au baptême et qui nous forme tout au long de notre vie pour faire de nous, potentiellement, en tous les cas, des saints. Le but de la liturgie, en fait, si vous deviez retenir quelque chose, c'est de faire de nous des saints. Alors, on a bien conscience qu'il y a beaucoup de boulot. Enfin, en tous les cas, moi j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de travail. Mais c'est la volonté de Dieu, et c'est sa volonté sur l'Église entière.
Alors, nous allons parler de l'espace et des objets liturgiques. Alors, tout d'abord, l'architecture d'un lieu nous renseigne sur la théologie de cette religion. Alors, l'Église n'est pas à l'origine un lieu particulier, n'a pas de forme prédéterminée, mais une tradition architecturale s'est fixée au cours des temps. Au tout départ, les premiers chrétiens célébraient dans leur maison. L'Église, comme la synagogue, est d'abord un lieu de rassemblement pour l'assemblée, qui se traduit en latin par « ecclesia » et « synagogue » en grec. Les chrétiens ont adopté un bâtiment qui servait aux réunions civiles. Ce bâtiment s'appelait la basilique. Le plan basilical, c'est un plan allongé, en rectangle, par rapport au plan centré, rond ou carré. Les deux formes existent, mais le plan basilical s'est surtout répandu en Occident. Il permet la procession qui est typiquement occidentale. La nef allongée nous invite à avancer vers le sanctuaire qui représente le ciel, le but de notre pèlerinage terrestre. Les orientaux ont une théologie légèrement différente. Ils voient davantage la liturgie comme le ciel sur la terre, ce qui est vrai aussi pour nous. Ce n'est pas contradictoire, c'est une question de point de vue et d'accent théologique.
Alors, on aimerait bien d'ailleurs que la beauté de nos liturgies soit un avant-goût du ciel sur la terre. Quelquefois, on fait avec nos pauvretés, et c'est déjà bien. Donc, on vient de voir l'aspect architectural. Avec cet aspect architectural...